Un mois d'actu avec Bâti Actu, question d'actu.
Choc de l'offre. Depuis le début du quinquennat Macron, le gouvernement ne cesse de marteler cette idée que c'est en construisant plus qu'on rendra le logement plus abordable. Si les acteurs du logement ne peuvent que soutenir cette démarche, ils sont peut-être plus sceptiques quant à la méthode. Car depuis septembre 2017, beaucoup de choses se sont passées. La loi Elan est entrée en vigueur, mais de nombreuses mesures budgétaires ont sensiblement impacté les professionnels du secteur social comme du secteur privé. Alors, prélèvements supplémentaires, réduction du loyer de solidarité et hausse de la TVA pour les bailleurs sociaux, quand le secteur de la maison individuelle, lui, commence à pâtir de la disparition prochaine du prêt à taux zéro pour le neuf dans les zones B2 et C et de la suppression de l'appel accession. Alors ces mesures auront-elles raison du choc de l'offre avant même que la loi Elan ne fasse effet ? Face à des chiffres de la construction qui font grise mine, les acteurs du logement tirent la sonnette d'alarme, tandis que l'État appelle à la patience le temps que la loi Elan démontre ses premiers effets. Pour en parler à mes côtés, Christophe Boucaud, vous êtes délégué général adjoint de LCFFB et je précise que vous serez délégué général à compter du 28 mars prochain. Et pour échanger avec vous, Monsieur Laurent Gouillard, vous êtes directeur général de la Fédération des offices publics de l'habitat. Bonjour à vous et merci pour votre présence.
Bonjour.
Donc, première question, sans tarder. Pour vous, le choc de l'offre, mythe ou réalité, Monsieur Gouillard ?
Écoutez, nous souhaiterions que ce soit une réalité parce qu'effectivement, on a besoin de logements et de logements sociaux dans notre pays puisqu'on a aujourd'hui 2 millions de demandeurs de logements sociaux. Et puis, on a besoin de ce choc de l'offre pour pouvoir aussi rééquilibrer le marché entre le parc privé dans les grandes métropoles et en Ile-de-France, vraiment trop cher, pas accessible aux locataires. Et donc, oui, on voudrait que ce soit une réalité. Le problème, c'est que nous craignons, avec toutes les mesures budgétaires que vous avez évoquées, que cette réalité devienne un mythe et que le rêve que nous pouvions avoir se transforme en cauchemar. Parce qu'aujourd'hui, nous, on constate, effectivement, on y reviendra probablement, une diminution donc de la production de logement social. Et quand il y a une diminution de production de logement social, il y a souvent une diminution de production de logement privé, puisqu'il y a beaucoup d'opérations qui sont mixtes, qui sont lancées donc avec des partenariats entre des promoteurs et des organismes de logements sociaux.
Vous qui représentez LCFFB, M. Boucaud, vous partagez ce constat ?
Bien évidemment, je partage. Bonjour. On a effectivement aujourd'hui un marché qui a été sensiblement choqué par un certain nombre de mesures que vous avez rappelées. L'objectif était, et nous le partageons, de construire plus, plus vite et moins cher. Construire plus, à l'évidence, les chiffres de 2018 démontrent que ce n'est pas du tout le cas et que les tendances vont sensiblement encore réduire le volume de production de logements. Plus vite, on peut l'espérer avec certaines mesures de la loi Elan que vous avez rappelées, notamment sur tout ce qui relève des traitements des contentieux. Quant à construire moins cher, là, on demande à voir, dans le sens où plusieurs mesures qui ont été prises ou qui vont être prises dans les prochains mois risquent de surenchérir le coût du logement. Donc on a effectivement une offre qui est plutôt en choc, plutôt qu'un choc d'offre, et avec, en ce qui concerne le secteur de la maison individuelle et de la promotion immobilière, puisque LCRA représente ces deux métiers, oui, une forte demande aujourd'hui de nos clients sur l'ensemble du territoire.
Alors, pour prendre le pouls un peu de votre secteur, quels sont les principaux chiffres qui sont tombés en ce début d'année ?
Alors, les chiffres, ils sont singulièrement en retrait, puisqu'en maison individuelle, secteur diffus, on a clôturé l'année 2018 à moins 11% par rapport à 2017. C'est près de 20 000 ménages, finalement, qui n'ont pas accédé à la propriété par ce vecteur de la maison individuelle. Sur le secteur du logement individuel groupé, on est à moins 10% également en vente sur 2018. Quant au collectif, qui est un peu plus long, les cycles sont beaucoup plus longs, on est aujourd'hui en retrait d'1,2% sur les ventes 2018, mais on est aujourd'hui sur une contraction assez marquée, parce qu'on est à près de moins 5% de mise en vente. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, effectivement, moins d'opérations qui se lancent, donc potentiellement, évidemment, moins de ventes à venir. C'est, et Laurent Gouillard l'a évoqué, oui, lié à plusieurs phénomènes, en particulier aussi lié aux investissements et à la réduction des investissements des organismes HLM dans les opérations qui sont mixtes.
Alors du coup, Monsieur Gouillard, cette baisse d'investissement, est-ce qu'elle commence déjà à se faire ressentir au niveau de la construction de logements sociaux ?
Tout à fait, puisque là, on vise une année 2018 à 106 000 agréments. J'y reviendrai, parce que les agréments ne se transforment pas forcément toujours en logements, alors qu'il y a 2 ans, nous étions autour de 120 000. Et on a d'autres indicateurs qui sont inquiétants, qui sont ceux que donne notamment la CDC en région, où on observe sur le dernier trimestre de l'année 2018 une baisse de mobilisation des prêts hein, notamment des prêts donc HLM, donc PLAI plus et PLS, ce qui montrerait le fait que justement ces agréments ne se transforment pas forcément en chantier. Donc on est vraiment très inquiet. Et on ne cesse de le dire, et c'est vrai que eh bien, les mesures que vous avez évoquées, je vais les rappeler, hein, c'est 1,5 milliard de prélèvements sur les organismes HLM prévus dès 2020, c'est déjà 800 millions sur les loyers et, la hausse de la TVA, eh bien, nous font penser ces mesures que la production va baisser de 30 à 40% les prochaines années. Et comme on sait que c'est toujours un peu difficile... Hein, de relancer le secteur du bâtiment, on l'a vu dans le précédent quinquennat, pour arriver à près de 500 000, qui est une performance assez rare dans notre pays, il a fallu quand même plusieurs années d'efforts conjoints des politiques publiques et des opérateurs pour y parvenir. Donc chaque coup de frein engendre des périodes difficiles. Et j'ajouterais que longtemps, le logement social a servi un peu en cas de crise immobilier, on dit un rôle contracyclique, c'est-à-dire que les promoteurs étant un peu en difficulté, le logement social est en capacité, lui, de résister hein, et de faire en sorte que tout le secteur du bâtiment ne s'effondre pas en même temps. Et là, ce rôle-là, on va plus pouvoir le jouer compte tenu des lois de finances qui se succèdent et qui aggravent la situation financière des organismes HLM et surtout leur capacité à produire. Hein, c'est bien ça, à produire et à produire pour le choc de l'offre. Le choc de l'offre, il ne peut être qu'un travail mené entre tous les partenaires publics et privés, c'est évident, notamment dans les zones tendues.
Je crois que la question, effectivement, du maintien de l'appareil de production, c'est-à-dire de l'ensemble des acteurs de la filière dont le dimensionnement est adapté au volume de production, effectivement, l'ensemble des coups de frein et de réduction marquée de l'ensemble des volumes de vente sur l'année 2018, la production de logements sociaux sur 2018 et les années à venir, si on l'ajoute à ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire on a aujourd'hui les derniers chiffres du ministère, je crois qu'ils datent de lundi, On est à moins 7% en autorisation de construire. Donc on voit qu'on est sur une séquence tout à fait en tendancielle baissière. Et le marché de l'amélioration d'entretien, lui, est quasi stable. Donc on a un risque assez fort de réduction de l'appareil de production. Donc le rebond, c'est-à-dire la manière dont on pourrait potentiellement redéployer l'offre avec les mesures de la loi Elan, tenter qu'elle le permette, on aura quand même affaire à un appareil de production qui ne sera pas en capacité de pouvoir produire l'ensemble de ces volumes de logements.
Vous pensez que la loi Elan suffira à susciter ce rebond ?
À titre personnel, je ne pense pas que les mesures de la loi Elan suffisent à créer le choc d'offres attendu. Parce que le choc d'offres, on y reviendra sûrement dans notre échange, il est étroitement lié à la question de la libération du foncier, du foncier abordable, du foncier bien situé, abordable et adapté au prix de sortie des opérations et donc adapté au pouvoir d'achat des ménages dans un moment où on réduit les aides publiques qui sont à l'adresse de ces mêmes ménages. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Certaines vont dans le bon sens. Hein. On a parlé des mesures relatives au traitement des contentieux et l'accélération des traitements des recours. Ça permet effectivement d'accélérer le rythme et puis de réduire la possibilité d'abandon d'opération. Mais dans ce qui constitue l'économie générale d'une opération immobilière, le foncier aujourd'hui c'est 30% en moyenne, ça peut être jusqu'à 50% dans les zones très tendues. Et on voit aujourd'hui la rareté de foncier de plus en plus forte et donc de la surenchère permanente entre les différents acteurs, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, sur ces mêmes assiettes foncières pour satisfaire leurs objectifs de production. Et donc qui conduisent nécessairement à avoir des prix de sortie qui sont aujourd'hui de plus en plus décorrélés de la capacité des ménages à pouvoir être solvables par rapport à ces prix de sortie.
Monsieur Goyard, votre avis sur la loi Elan ?
La loi Elan, alors c'est justement, il y a vraiment beaucoup de contradictions aujourd'hui autour de la politique du logement, parce que la loi Elan, effectivement, donne des outils intéressants pour accélérer les processus de construction, diminuer un certain nombre de normes, améliorer effectivement la possibilité d'accélérer la mise en œuvre des permis de construire, etc. Il y a eu un gros travail fait avec le mouvement HLM sur les regroupements, comment créer des groupes horizontaux à côté des groupes verticaux pour que tout le territoire puisse continuer à être maillé par des opérateurs HLM efficients. Et de plus en plus efficient. Et puis dans le même temps, on fait des prélèvements qui sont très très élevés. Hein, et ces prélèvements, nous, on considère qu'en plus, on fait des prélèvements sur l'APL. Hein. L'APL, c'est quand même pour aider des ménages fragiles. Alors, on nous dit, ah oui, mais comme vous baissez les loyers, les ménages, eux, n'en voient pas la couleur. Nous, on répond, mais si, ils vont en voir la couleur, parce que comme c'est des recettes en moins pour les organismes, ça sera de l'entretien en moins, des réhabilitations en moins, des constructions en moins, etc. Donc si nos locataires vont voir la différence, malheureusement, et c'est vraiment dommage. Alors c'est dommage donc que cette loi qui était portée collectivement dans une dynamique collective, malgré l'épisode de la loi de finances 2017, on a tous travaillé ensemble, Mais finalement, on a l'impression que ces efforts vont être vains. Voilà. Et donc, c'est regrettable.
Alors, pour le secteur du logement social, il y a actuellement une clause de revoyure qui est en cours de négociation avec les différents ministères de tutelle. On va revenir là-dessus avec vous. Mais est-ce que, à l'échelle du secteur privé, est-ce qu'il y a des petites marges de négociation qui s'ouvrent, notamment pour éventuellement un retour du PTZ9 dans les zones B2 et C ou de l'APL accession ?
Nous l'espérons tout simplement parce que le ministre de la Ville et du Logement, fin 2018, a annoncé lors du débat sur la loi de finances 2019, réouvrir au début 2019 les discussions autour de l'avenir du PTZ dans zone B2 et C. On espère que effectivement cette annonce nous permettra à minima de pérenniser le PTZ en B2 et C tel qu'il est aujourd'hui jusqu'à fin 2020 comme ça l'est pour le PTZ en zone A et B. Pour la question de l'APL accession, je pense que le sujet est plus complexe parce qu'il adresse directement le dossier plus global des APL. Néanmoins, aujourd'hui, l'APL accession est un vrai levier. Je vais vous donner un chiffre. L'APL accession, c'était pour un ménage moyen, c'était environ 150 euros d'APL accession qui leur a été alloué. Cette suppression de 150 euros, ça suppose pour un même niveau d'endettement, pour un même projet immobilier, ça suppose de disposer de 450 euros de revenus supplémentaires. Bon, donc vous voyez, 150 euros qui solvabilisent un ménage à 30% d'endettement suppose, s'il n'y a plus ces 150 euros, d'avoir effectivement un revenu supplémentaire de 450 euros. C'est tout simplement impossible pour le bon nombre de ménages. On a aujourd'hui sur les zones B2 et C, on a réduit quasiment de 50% la quantité des prêts à taux zéro délivrés en zone B2 et C. Mais on les a aussi réduits de à peu près 20% sur les zones B1, ce qui démontre bien, et alors que le dispositif n'a pas, lui, évolué sur les zones B1, ce qui démontre bien l'impact de l'APL accession sur les ménages les plus modestes en termes d'accession à la propriété. Si en zone B1, moins 20%, on peut considérer que c'est étroitement lié, cette baisse de 20%, étroitement lié à la suppression de l'APL accession. Donc il y a à la fois l'outil PTZ, qui est un outil précieux pour les primo-accédants dans leur projet immobilier, et puis à la fois le dossier effectivement de l'APL accession, qui globalement est très peu coûteux par rapport à l'enveloppe globale des APL et qui est très utile pour bon nombre de nos concitoyens.
Sur la clause de revoyure
Bah écoutez, je vais faire le lien directement avec ce que vient de dire Christophe. Oui. Tout simplement, l'APL accession, ça permettait également à des ménages du parc social de quitter leur logement HLM pour accéder à la propriété, donc de laisser leur place à des gens qui attendent un logement HLM depuis longtemps. Tout ça pour un coût effectivement très très modique par rapport à l'ensemble des APL. Sur la clause de revoyure, bah écoutez, on a abordé le sujet de l'APL accession. On a eu beaucoup de réunions techniques pour bilan contre bilan, essayer d'expertiser l'impact des mesures donc de baisse de l'APL sur les organismes HLM et puis les fameuses mesures de compensation, etc. Bon, il se trouve que nous, tous les travaux qu'on a montrés, montre que si la RLS passe à 1,5 milliard, donc si la baisse de l'APL répercutée par une RLS passe à 1,5 milliard, on sait que nous, on a fait des calculs, Fédération des ESH, Fédération des Offices, USH, que la production allait baisser d'au moins 30% et sur une durée assez longue, parce que ce processus de ponction est amené à se renouveler chaque année. Hein. Et donc on se dit que c'est vraiment regrettable. Au moment où, en plus, les organismes vont devoir relever les défis de la rénovation urbaine. Et c'est vraiment vrai pour les offices, particulièrement vrai par les offices, pardon, hein, qui sont très concernés par le renouvellement urbain, donc l'avenir des quartiers, hein, des quartiers populaires. Et donc on a du mal, voilà, à comprendre cette logique. Et aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur ce qui va sortir cette clause de revoyure, parce qu'on n'a pas vraiment discuté encore des sujets de fond. Écoutez, le mouvement HLM va être reçu par le Premier ministre dans une quinzaine de jours. On verra bien.
À la demande de l'Union sociale pour l'habitat.
Tout à fait. Et vous le savez, on a tenu une conférence de presse avec d'autres partenaires, dont la FFB, la Fondation Abbé Pierre, la DCF, etc., des associations
d'élus. Qui est un fait assez rare pour être souligné. Qu'est-ce que ça dit de la situation du logement en France, cette forme un peu de l'Union sacrée ?
En fait, moi, je vais vous dire ce que ça dit pour être positif et ce qu'on veut être positif. Ça dit qu'on a envie de répondre au choc de l'offre, qu'on a envie de travailler avec le gouvernement sur les outils, les moyens, la méthode de le faire, mais qu'on ne peut pas le faire avec un pistolet sur la tempe, en fait. Et qu'on ne peut pas le faire avec des opérateurs qui vont devoir, donc, forcément réduire leurs investissements parce qu'on leur prend, finalement, leur loyer. Et les loyers, dans un organisme HLM, c'est 90 à 95% des recettes. Voilà. Donc, on a envie de dire, trouvons d'autres solutions. On peut contribuer à ce que la dépense publique diminue, mais pas de cette façon. Et il faut qu'on se mette d'accord sur les objectifs aussi, tout simplement. Qu'est-ce que le gouvernement attend du mouvement HLM et attend de toute cette filière qui était arrivée là à près de 500 000 logements livrés, enfin en tout cas en production récemment. Voilà.
Alors, conclusion sur ce sujet. Oui, monsieur Boucaud,
je voudrais ajouter à ce que vient de dire Laurent, le fait que c'est effectivement assez rare que nous ayons une union, ce qu'on appelait l'union sacrée autour du logement, enfin, en tout cas le secteur HLM, le secteur du bâtiment, le secteur de la maîtrise d'ouvrage privé, les associations d'élus, Maire de France, ADCF, France Urbaine, qui au fond, effectivement, disent... Nous sommes des partenaires de l'État, des pouvoirs publics, pour conduire une politique du logement qui soit adaptée aux besoins, aux enjeux. Et l'expression, elle est le 20 février, c'est de dire qu'il y a un enjeu logement aujourd'hui qui n'est pas un enjeu qu'économique, mais qui est un enjeu à la fois économique, mais aussi un enjeu social, un enjeu de réponse aux besoins, et puis un enjeu territorial, parce que la question de la fracture territoriale, la question de la place du logement dans la cohésion territoriale, elle est aussi centrale. Et aujourd'hui, on ne peut pas tout flécher l'ensemble des aides uniquement sur les secteurs dits tendus. C'est qu'il y a d'autres formes aussi d'expression de logement qui s'expriment, excusez-moi la redondance, dans d'autres territoires. On ne peut pas, dans les zones rurales, dire qu'il faut arrêter la construction au profit de l'existant. Ce n'est pas vrai. C'est beaucoup plus nuancé que cela. Et donc, c'est une invitation à l'adresse des pouvoirs publics, effectivement, d'être dans une phase de dialogue et de restaurer l'ensemble des fondamentaux qui soient à même de conduire une politique du logement qui puisse déboucher, effectivement, sur ce que Laurent a rappelé, ce qu'on appelle tous de nos voeux, c'est le choc de l'offre, c'est-à-dire, effectivement, produire du logement adapté aux besoins et aux formes d'habitat que l'ensemble des territoires aujourd'hui accueillent.
Merci Christophe Boucaud, merci Laurent Goyard.
Un mois d'actu avec Bâti Actu, une émission présentée par Lina Trabelsi, journaliste Bâti Actu.